Aujourd'hui, Monique Brumont-Cassin nous emmène au début du XVIIIe siècle lorsque Montesquieu hérite du titre de baron de la Brède, entre dans la magistrature, une étape décisive dans son destin d'homme d'État et de penseur. Monique raconte... Bonjour Monique.
Bonjour.
Racontez-nous.
Eh bien, nous le retrouvons bachelier à 16 ans et demi. Charles-Louis revient à Bordeaux et obtient une licence en droit pour suivre la volonté de l'oncle Jean-Baptiste, dont nous parlerons souvent, devenu président, le tonton, au Parlement et baron de Montesquieu, au décès du père Gaston de Secondat. Il obtient le titre d'avocat à 19 ans, et là, son destin tout tracé va un peu dévier. Pour compléter sa formation de futur magistrat, on l'envoie faire le gratte-papier chez un obscur avocat à Paris, dont on n'a jamais su le nom. En 1709, qui vit le pire hiver du siècle, il entame les 4 années de sa vie parisienne qui vont l'ouvrir à un monde inconnu. Certes, il s'ennuie à mourir chez l'avocat le jour, mais il se rattrape le soir et la nuit. Il commence à côtoyer quelques intellectuels et découvre ainsi une société avec ses travers, ses bizarreries et ses ridicules. On pense qu'il commence à écrire des brouillons de lettres qui lui serviront plus tard. Bien que vivant chichement, car les finances de son père sont toujours catastrophiques, ce sont des années d'insouciance. Mais son père, Jacques, meurt à 59 ans en novembre 1711. À 24 ans, Charles-Louis devient donc baron de la Brède et endosse tous les soucis qui vont avec. 150 hectares de bois, quelques métairies, 50 hectares de vignes à l'abandon, un ou deux moulins. Celui du bourg est vendu depuis longtemps. Sans oublier les successions dues à ses sœurs et son frère, ni le château jamais rénové. Et les droits à payer au trésor royal sous peine de confiscation de la baronnie. Charles-Louis rentre 21 jours plus tard de Paris, après 2 semaines d'un trajet pénible en plein hiver. Avec l'oncle Jean-Baptiste, il passe des mois à rassembler des documents nécessaires, vérifier ses droits sur ses possessions, lister les créances dues ou espérées, et surtout, emprunter l'argent pour payer les taxes au moment où il devra rendre l'hommage au roi devant l'intendant de Guyenne à Bordeaux. Convoqué impérativement le 18 juillet 1714 pour mettre, je cite le texte officiel, « mettre genoux à terre, sans ceinture ni épée ni éperon, les mains jointes en prêtant serment de fidélité au roi », comme au Moyen-Âge, il se met au lit et se fait déclarer malade. Il partage la détestation de son père à l'écart de Louis XIV et refuse d'accomplir le rituel immuable. Le médecin du village atteste que le baron, je cite le texte, « est retenu au château de la Brède depuis 6 jours par une double fièvre tierce », ce qui est un genre de paludisme léger. Grâce au très influent tonton Jean-Baptiste, et tout à fait exceptionnellement, il est dispensé de se présenter et un magistrat, ami et payé par l'oncle, fera la génuflexion obligatoire. Pour Louis XV, 2 ans plus tard, il ira rendre son hommage sans chicaner. L'oncle, chef de famille, prend alors en main le destin tout tracé de son filleul. Car, veuf, sans enfant, il a prévu que Charles-Louis serait son héritier. Mais il exige qu'il s'établisse et sans tarder. Il lui fait acheter une charge de conseiller au Parlement qui sera plus tard, pense-t-il, exigée pour récupérer un jour sa charge de président à mortier. Le mortier étant la petite toque qui coiffe les 9 titulaires de cette fonction. Un portrait de Montesquieu le montre dans cette grande tenue qui est toujours actuelle. Et nous le quittons aujourd'hui, en 1714, à 25 ans, siégeant sans entrain à la chambre criminelle qui n'est pas la plus attrayante ni la plus rémunératrice du Parlement.
Merci beaucoup Monique. Et demain, justement, vous nous parlerez de Montesquieu magistrat. À demain.
Oui.